Chipette. Le cachipette.
Le podcast élucubratif qui te gratte l'oreille avec la patte arrière.
Oh, le cachipette.
Le cachipette, le cachipette, le cachipette.
J'ai pris une grande décision. Ça fait des jours que je mûris ce projet. Je vais faire quelque chose pour ma famille de cohabitants. Quelque chose d'utile. Poser un acte qui leur rendra service et dont au sujet duquel ils me seront éternellement reconnaissants. Alors pourquoi, me direz-vous ? C'est vrai, à première vue, ces gens-là n'ont pas de quoi déclencher une empathie virale. Faisons un peu l'état des forces en présence. Enfin, des forces, façon de parler, hein. Un intermittent spectacle mollasson qui s'est associé à une prof de français survitaminée pour produire une portée assez limitée, à savoir une ado remontée à bloc sur tous les sujets de la vie et son frangin mi-cuit qui ne sait toujours pas si à sa majorité il voudra se faire réincarner en avatar de GTA ou de Fortnite. Tout ça n'en vaut pas du rêve, je vous le conseille. Même. Cette tribu de doudingues me rend quand même bien des services. Notamment au niveau logistique, oui, mais c'est un détail ça. Non, ce qui compte surtout, c'est l'affection qu'ils me portent. Le fait qu'ils recherchent ma compagnie. L'élévation culturelle et philosophique qu'ils me procurent en me faisant participer à leur soirée lecture. La haute teneur de nos échanges spirituels détachés de toute contrainte matérielle. Et aussi leur putain de hachis parmentier à volonté et les petits gratouillis sur le bidou une fois qu'il est bien rempli. Oui, bon, ok, ça compte aussi. Pour toutes ces raisons, donc, je me suis dit qu'il était temps que je leur exprime ma gratitude. J'ai longtemps cherché. Longtemps. J'ai consacré tout mon temps de sieste et de méditation, c'est vous dire. Et là, cet après-midi, bim ! Épiphanie, eureka, lumière à tous les étages, j'ai trouvé ce que j'allais faire pour les remercier. Le bulldog. Ce sera le bulldog. Depuis 2 heures que je suis étendu de tout mon long sur le haut de la cheminée du salon, je lance des regards à ce truc ringard qui me fait face à gare à l'autre extrémité de la tablette en pierre du Gard. Un infâme bulldog en verre de Murano couleur caca, ramené il y a des années d'un voyage à Venise par les cohabitants de ma tata anglaise. Je vous ai déjà parlé de ma tata anglaise ? Ah oui ? Ah bon ? Et là, je me dis d'un coup d'un seul qu'il n'est pas possible que dans une maison aussi raffinée, où Camus côtoie Rousseau dans les étagères. Camus et Rousseau, c'est Albert et Jean-Jacques, hein, par Renaud et Sandrine. Enfin bref, dans ce foyer où la seule touche usée sur la télécommande est le numéro 7, dans cette villa pimpée par Bobo Chic et validée par le magazine TTBM, tendance trendy et bohème bourgeoise, cette demeure où tout n'est que luxe, calme et volupté, dans laquelle règne une harmonie rare dont la perfection rivalise avec celle d'un sonnet baudelairien, justement, il n'est pas possible que dans ce temple de la délicatesse et de la finesse d'esprit, dont je suis le gardien autant que l'âme, puisse trôner bien en évidence sur la cheminée du salon cette grosse merde toute pourrie de bibelot à 3 balles pour touristes à la con qui représente un fucking bulldog de mes deux, arborant éternellement l'air abruti du fan de Joe Dassin qui se demande ce que peut bien être une aquarelle de Marie-Laurent Sainte. Comment mes cohabitants, ces braves gens au goût pourtant si sûr, puisqu'ils m'ont choisi pour être l'emblème de leur maison, peuvent-ils supporter la vue de cet horrible étron au quotidien ? En fait, je crois deviner. Ils n'osent pas dire à leur cousin anglais qu'ils détestent ce cadeau. Du coup, ils se l'infligent en permanence, au lieu de le planquer dans le placard des chiottes et de le ressortir à la prochaine visite familiale. C'est pas compliqué quand même. En plus, qu'est-ce qu'ils risquent ? C'est rare que les Anglais débarquent à l'improviste, non ? Bon, de toute manière, je vais opter pour une solution bien plus radicale qui évitera ce genre d'entourloupe inutile à l'avenir. Allez hop, destruction du bulldog et on n'en parle plus. Pour ce faire, j'ai décidé d'adopter une technique ancestrale qui nous vient des chats égyptiens, de cette grande époque où nous étions des demi-dieux et que seuls les éléments supérieurs que moi arrivent encore à maîtriser de nos jours, la psychokinèse, la télékinésie, la télépathie quoi. Bon, en gros, je vais tellement me concentrer sur la verroterie canine que je vais arriver à faire chuter cette grosse bouse juste en la regardant intensément. Et paf le chien ! C'est pas ouf ça ? Alors voilà. Position du poulet replié. Oreille bien droite, pupille complètement dilatée. Je fixe à présent cette pauvre merde qui n'a plus que quelques secondes à vivre. Quelques minutes peut-être ? Il a pas l'air de trop vouloir bouger pour l'instant le corneau translucide. M'en fous, j'ai tout mon temps. Je suis seul à la maison, personne pour me déconcentrer. Vas-y, tombe. Tu ne peux pas résister à la puissance supérieure de ma volonté féline, du haut de laquelle 40 siècles te contemplent. Parce que les Égyptiens, les pyramides, tout ça, tout ça. Bizarre. Il n'a pas bougé d'un poil. Je suis peut-être trop loin. Je me rapproche tout doucement. Un pas, et puis un autre. Allez, encore un troisième. L'ersatz canin de bas étage doit sentir le souffle ravageur de mes naseaux à présent. Et il doit percevoir la puissance irrésistible de mes ondes mentales qui lui enjoignent de se jeter dans le vide. Non ? Ça marche pas ? Oh, bah ouais, mais c'est un chien aussi. Ça comprend rien, ça perçoit rien, ces trucs, pas étonnant. Bon, allez, j'en ai marre. On va passer à la télékinésie assistée. Allez, blanc, un bon coup de patte dans la crotte en verre et c'est réglé. Bingo ! Tout ça s'est disloqué direct en arrivant au sol. Une myriade de débris. Beau travail, tiens. Et puis ça tombe bien, voilà la mère de famille qui rentre. Comme elle va être contente et soulagée que son calvaire soit enfin terminé. Qui sait qui va avoir un gros câlin et possiblement double ration de croquettes.
Merde, voilà. Allez, casse-toi. Espèce de crétin, je veux plus te voir. Allez, ouste. Allez, dégage.
Aïe, aïe. Merde. Elle a réussi à me choper avant que j'aille me planquer sous le canapé. Et là, elle fait ce que je déteste le plus. Elle me ramasse par la peau du cou, comme faisait ma mère, et me balance par la fenêtre dans le jardin. Et ça, c'est hyper humiliant, ça. Ah ben bravo. Et ça enseigne le français. Et ça nous sort du traité sur la tolérance et du Victor Hugo à longueur d'année. Eh ben, elle est belle, les ducnates. Ça m'apprendra à vouloir rendre service, tiens. Tu sais quoi ? Tu le méritais bien, ton bibelot de Murano, là. La prochaine fois, j'espère qu'ils te ramèneront une énorme poupée en coquillage de cancale, tiens. Tu vaux pas mieux que ça. Alors rassurez-vous. Petit A, c'est la fenêtre du rez-de-chaussée, hein, même pas mal. Petit B, m'en fous. Je venais de finir ma gamelle d'hélice de saumon aux petits légumes printaniers. Donc, je peux tenir un bon moment en mode survie à l'extérieur. Je suis calé. Petit C, c'est l'heure de la réunion du soir sous les bambous, alors ça m'arrange bien de quitter cette baraque de fous. Et de toute façon, avant d'aller se coucher, ils seront morts d'inquiétude si je suis pas rentré. Je les laisserai tous s'égosiller à m'appeler pendant une demi-heure, et puis je me rapprocherai tranquillement de la maison, et quand ils me verront, ils seront tellement soulagés qu'ils m'auront pardonné le coup du bibelot, et j'aurai même droit à du rap de pâté. Donc, la mission Search and Destroy the Bulldog est une franche réussite. L'essentiel étant que l'on soit définitivement débarrassé de la monstruosité vénitienne. Je trottine donc, tout content, vers notre lieu de réunion habituel, notre agora des angoras, et de tous les autres chats aussi, que je n'ai plus fréquenté depuis un bon moment. Du coup, un petit update s'impose, je pense, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas revenus ici depuis longtemps également. Les dernières nouvelles du quartier à présent, où l'ambiance s'est considérablement détendue depuis l'annonce de la découverte d'un vaccin pouvant soigner l'anomitatolose, pardon. Il est à noter que cette perspective a considérablement affaibli l'audience du leader d'opinion The Mou, qui ne s'est plus beaucoup manifesté récemment et dont les partisans ne parlent plus vraiment d'aller chasser les persans récemment installés dans le quartier. Ah bah ça c'est basique, hein. Quand il y a moins de peur, il y a moins d'agressivité. Même le dernier des corneaux fonctionne sur ce schéma. Ça semble être un réflexe universel, malheureusement.
Merci. On se perd d'ailleurs en conjoncture, en conjecture, enfin les rumeurs vont bon train, concernant l'absence de The Mou sur la place publique. Il se dit qu'il pourrait bien être en quarantaine suite à sa contamination à l'anomitatolose, même si le plus grand flou règne sur le nombre exact de victimes de la maladie qui rend vegan et dont certains prétendent qu'elle proviendrait du groupe de persans dont nous vous parlions à l'instant, récemment, je vous le rappelle, installé dans le quartier. Seul le cas de Rusty paraît incontestable, puisque de nouveaux témoins l'ont vu absorber un radis, et qu'il semblerait avoir développé tous les symptômes connus à ce jour de la nématonomitatologie. Chier, merde, la fin, c'est à la con. Pardon. Mais qu'en est-il justement de The Mou, ou encore de Schwartzy et de Founette, qui n'ont plus été vus dans le quartier depuis plusieurs jours? Sont-ils vraiment touchés par la maladie? Et à quel point? Tous trois, en tout cas, auraient été en contact avec des persans, ou était chat contact d'un chat en contact avec les persans, ou encore chat contact d'un chat en contact avec les persans récemment installés dans le quartier. Pour nous éclairer, nous recevons un spécialiste des maladies infectieuses, le professeur Louis Raoul, titulaire d'un CAP de podologie, qui va nous expliquer que tout ça n'est peut-être pas aussi grave que ça et qu'il faut raison garder. Alors, professeur, tout ça est-il aussi grave que ça et faut-il raison garder ?
Ah bah justement, quand j'arrive, la discussion tourne à fond sur ce sujet. Oula, y a foule, dis donc. À quelques notables exceptions près, tout le quartier est de sortie. Comme si on avait plus peur de la contagion. Fini les mesures de précaution, les gestes garde-barrière. Allez hop, il paraît qu'il y a un vaccin, on passe à autre chose. Le monde d'après redevient le monde d'avant et youpi. Je retrouve Simone qui me résume les débats de la soirée. Sans surprise, une fois de plus, on a d'un côté les crétins intelligents qui sont persuadés qu'on doit tous aller se faire vacciner, que c'est le seul moyen de sortir de cette crise sans risque, et de l'autre, les intelligents crétins qui prétendent que le risque, c'est le nouveau vaccin, parce qu'il est nouveau justement, et qu'on ne va pas s'injecter n'importe quoi pour une maladie qui n'a fait que quelques cas dans le bled et qui va disparaître toute seule aussi vite qu'elle est venue. C'est étonnant quand même, cette capacité qu'ont ces gens à devenir spécialistes en un coup de baguette magique. Même quand il s'agit d'un virus dont ils n'avaient jamais entendu parler il y a 3 semaines, ou d'un vaccin que personne n'a encore reçu. Moi, il me fascine. J'en parlais récemment avec mon pote Jean-Christophe. C'est un chat originaire de Bretagne, le genre de gars bien ancré dans la réalité qui a une vraie capacité à détecter les imposteurs en tout genre. J'aime bien. Je lui parlais de cette conversation entendue chez moi entre le père, l'intermittent là, celui qui ne bosse que les jours fériés et encore pas au mois de mai parce qu'il touche les congés spectacles en mai, et sa fille Greta. Elle pétait un câble sur ces personnes qui détiennent, tiens-le bien, constamment une absolue vérité. Alors il lui a lu des extraits d'Étienne Klein, ça tombe bien. Étienne Klein, c'est un scientifique qui aime bien réfléchir. Je vous résume de mémoire, hein, bien sûr. La science ne se confond ni avec la déclinaison en roue libre de l'intuition, qu'elle prend souvent à contre-pied, ni avec le fameux bon sens qu'elle contredit presque toujours. Or, à l'occasion d'une épidémie, nous voyons se propager, notamment sur les réseaux sociaux, une forme très intense et très contagieuse de démagogisme cognitif. C'est-à-dire d'un type de discours qui promeut des points de vue intuitifs et souvent erronés sur toutes sortes de sujets. Par exemple, à propos de tel ou tel traitement dont l'efficacité éventuelle n'est pas encore formellement établie, et pour cause, cela demande du temps et réclame un gros travail de recherche. On a pu lire sous la plume de certains responsables politiques, qui heureusement ne sont pas ou plus aux affaires, de courtes déclarations commençant par « Je ne suis pas médecin, mais je pense que… » Ainsi, est-il devenu possible d'avoir suffisamment confiance dans son seul ressenti, sans doute dopé en intraveineuse par un surdimensionnement de l'ego, pour trancher d'un simple coup de phrase, en reconnaissant ne rien y connaître, des questions vertigineusement complexes. Par l'effet de quelque étrange paradoxe postmoderne, ce savoir ignorant n'empêche donc plus de se considérer tout de même comme un savant, et de très vite le faire savoir urbi et surtout orbi. Croire savoir, alors même qu'on sait ne pas savoir, telle me semble être devenue la véritable pathologie du savoir. Alors lui, je l'écouterai pendant des heures, tiens. Du coup, je peux me la péter, je sais que s'improviser spécialiste sans l'être porte un petit nom sympa, l'ultra-crépidarianisme, comme nous le rappelle Étienne Klein. En gros, l'idée, c'est que l'ignorance génère plus de confiance en soi que la connaissance. Et là, à nos réunions, on est servi question confiance dans l'ignorance. Les ultra-crépidariens, c'est pas ça qui manque. Tout de suite, par exemple, on a un beau spécimen en pleine péroraison. Francis, une espèce de braillard à poils longs, qu'on surnomme le chaboté parce qu'il a le bas des pattes d'une couleur différente, on dirait qu'il porte des cuissardes. Francis est en train de nous expliquer que c'est l'évolution normale du chat de devenir vegan. Parce qu'il y a je ne sais pas quoi dans le cosmos qui modifie nos gènes et qui fait qu'à terme, plus aucun être vivant ne sera carnivore. Par exemple, l'âne au fond du champ, là-bas. Ses ancêtres mangeaient des lapins, qui eux-mêmes mangeaient des carottes. Et donc, par mutation génétique à double induction cuniculaire, les ânes mangent aujourd'hui des carottes et plus de lapins. Hé, simple, non ? Cuniculaire, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire que ça se rapporte aux lapins. Si, si, vous pouvez vérifier. Donc, d'après Francis, on va pas incriminer nos frères persans qui n'y sont pour rien. Il n'y a pas de virus, c'est des conneries. Faut pas se faire avoir. C'est juste qu'on est en train de muter. Eh ben, il doit bien rigoler, Francis, là, l'âne. Le pire, c'est que j'en vois quelques-uns qui commencent à opiner du bonnet. D'âne, bien sûr. Et se disent que, mais oui, c'est très intuitif tout ça. Et bien sûr qu'ils nous font croire à un virus pour nous vendre leur vaccin à la con. J'adore quand les arguments débutent par « il » et finissent par « leur ». On sent tout de suite que la réflexion va être de haute volée. « Il » au pluriel, c'est quand même super pratique. Ça peut concerner n'importe qui et personne ne peut te contredire. Allez hop! Mais Francis n'a pas le temps de fonder un club avec ses tout nouveaux adeptes du « il ». Une rumeur saisit l'assistance et suspend la discussion. Fendant la foule, Zemmou, Schwartzy et Rosti font une apparition inattendue, marchant à la queue leu-leu et venant se positionner face aux autres, l'air grave. Bon, première constatation, ils sont vivants. Oui, c'est con, mais au point d'irrationalité où on en est, il y a bien un des nouveaux disciples de Francis qui pourrait crier à l'apparition de revenants. Hein. Deuxième observation, ils n'ont pas l'air mal en point, loin de là. En revanche, ils tirent vraiment une tronche de tristouille. Zemmou n'a jamais autant ressemblé à Gargamel, tiens. Tout le monde les presse de questions. « Alors, vous avez été malade aussi ?»« À votre avis, » répond Zemmou. « Si on s'est isolé, c'est pour vous protéger, bien sûr. Faut pas rigoler avec ça, les gars. C'est vraiment une saloperie, ce virus. »
Et vous êtes devenu vegan avec Schwartzy.
T'es guéri, toi.
Encore des salsifis,
encore du persil.
Et Rosti.
Mais non, les carottes, c'est les lapins. Mais non, c'est les ânes.
Et le vaccin, ça fait mal.
Silence. Zemmou prend la parole avec la solennité qui le caractérise désormais. L'important, les amis, c'est que Rosti soit allé se faire vacciner. Dans son cas, la guérison prendra du temps, car le vaccin a été administré trop tard après la contamination. Il va rester incapable de manger un bout de viande pendant quelques années. Mais il guérira, c'est sûr. Quant à nous autres, même ceux qui seraient contaminés, si nous nous faisons vacciner dans les jours qui viennent, aucun symptôme n'aura le temps de se développer. Le vétérinaire est formel. Une bonne moitié de l'assistance part en hurrah débile. L'autre est partagée entre fou rire et gros doute. Perso, notre bon docteur Mengele qui est formel, ça n'aurait pas trop tendance à me rassurer, moi. Et maintenant que nous sommes certains de pouvoir vaincre cette saleté, nous pouvons reprendre notre reconquête là où nous l'avions laissée et aller enfin chasser ces persans qui nous ont fait tant de mal. Et voilà, c'est reparti, la reconquête. On avait eu la paix quelque temps avec ça, mais c'est plus fort que lui, hein. Ça l'obsède, ce con. Alors là, Francis, qui est bien allumé, mais plutôt persan-friendly, retrouve un peu du poil de la bête et objecte que si on va se marave avec les persans, ça nous oblige à nous faire vacciner et on sait pas trop ce qu'ils mettent de leur foutu vaccin. Non, je vous l'accorde, Francis n'est pas forcément d'une grande logique dans ses raisonnements. Mais c'est pas grave, les quelques moutons qui le suivaient recommencent à opiner et à bêler en cœur. Oui, après tout, ça vaut peut-être pas le coup de prendre un tel risque. Alors, pour bien ratisser large et convaincre les indécis, Zemmou assène que d'abord les persans ne vont pas tarder à se reproduire et à envahir tout le territoire.
Merci de réécouter le premier chapitre intitulé « Le grand empercement » pour ceux qui n'auraient pas encore bien assimilé le concept.
Et que quoi qu'il en soit, les persans sont une calamité dans tous les cas. Soit on prend le risque d'être malade en les côtoyant, soit on prend le risque de se faire vacciner à cause d'eux. Il importe donc de se débarrasser de cette sale engeance au plus vite. Alors là, ça commence à se remotiver. On entend des virils « Ouais, on y va les gars, y en a marre de ces discussions sans fin. On va leur montrer qui c'est les mecs ici. Allez, on y va, tous derrière Zemmou. Minute !» C'est Simone qui a calmé tout le monde. « Justement, à propos de mecs, vous êtes bien gentils les gars, mais il manque une nana avec vous. Où est Founette? Pourquoi elle n'est pas réapparue, elle? Schwartzy, tu sais quelque chose ?» Schwartzy regarde Zemmou, qui prend un air contrit pour expliquer que Founette est la plus touchée de tous et qu'elle doit rester encore à l'isolement. « Désolé, j'ai pas confiance en toi, » réplique Simone. « J'aimerais bien que ce soit Rosti, tiens, qui nous explique tout ça. C'est vrai, quoi. C'est toi, le cas zéro. T'as quand même le droit de t'exprimer. » Elle est maligne, Simone. Zemmou est stupéfait. Rosti s'avance, ouvre la gueule et produit un aboiement digne d'un bon gros bras congrois à poil court. Rosti aboie. La foule est saisie d'effroi. Zemmour ordonne discrètement à Schwartzy de faire rentrer Rosti illico chez lui. Francis reprend aussitôt la parole.
Je le savais, c'est le vaccin, c'est le vaccin.
Il nous explique que le type qu'il connaissait, qui connaissait quelqu'un qui bossait dans un labo...
Oui, vous vous souvenez, c'était Francis qui nous avait parlé de ça. Étonnant, non?
Eh bien, ce type, ça lui revient maintenant, lui avait effectivement rapporté que dans de très rares cas, le vaccin pouvait provoquer des aboiements. Et que les chats vaccinés se retrouvaient dans l'incapacité de miauler. Mais si ça se trouve, c'est un effet secondaire systématique. Ils en étaient bien conscients et ils nous l'auraient caché, mais c'est super grave. Alors là, Francis redevient majoritaire. The Mou se fait huer. Ah, il est beau ton vaccin, tiens. Si c'est pour aboyer, je préfère encore devenir vegan. Non mais c'est trop la honte là. La plus grande confusion règne. On a, d'un côté chez les partisans de The Mou, les purs et durs, qui veulent aller casser du persan quoi qu'il arrive, parce que on est chez nous, comme vous le savez, mais aussi ceux qui voudraient bien, mais qui n'ont pas envie de se mettre à aboyer s'il faut se faire vacciner. De l'autre côté, les franciscains, qui considèrent que tout le monde nous ment, et que les persans sont des chats comme vous et moi, et qu'il n'est pas question qu'on les attaque. Et puis les autres, qui n'ont rien contre les persans, mais qui n'ont pas confiance dans le vaccin, mais qui ont peur de devenir vegan s'ils chopent ce virus qui n'existe pas, mais on sait jamais, et puis la masse informe de ceux qui changent d'avis comme de poils d'hiver. Au milieu de tout ça, il y a nous, il y a moi, et... Il y a aussi Simone et quelques autres qui tentons de leur expliquer que tout ça, c'est n'importe quoi et qu'il faut grave se calmer avant que ça dégénère. Mais Vibris m'indique qu'il y a un truc pas net de toute façon, les amis. Eh ben justement, renchérit Francis au milieu du brouhaha, il y a un truc pas net. Et dans ces cas-là, faut toujours se demander à qui ça profite. Alors, à votre avis? Tout le monde se tait et réfléchit. Enfin, ceux qui ont cette option. Un pote de Francis se risque.
Le veto, peut-être ?
Francis triomphe. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un vaste complot pour que ce crétin se fasse plein de fric sur notre dos. Ça paraît clair maintenant, non ? Et au départ, c'était quoi notre idée, les copains ? C'était d'abord d'attaquer le veto. Et on avait raison. Et on va y aller maintenant, parce que c'est notre projet ! Ce coup-ci, Francis semble avoir gagné. Attaquer le veto, ça parle à tout le monde. Un long cortège se forme en direction du cabinet. Presque tout le monde suit. Ils sont déterminés à aller tout saccager chez Mengele. The Mou assiste, impuissant, à l'échec de son plan. Il tire une de ses tronches. Si près du but. Ah, c'est le Waterloo du petit Bonaparte, là. Quand soudain... Ah, merci. Soudain, arrivent au loin tous les chiens du quartier, attirés sans doute par les aboiements de Rusty qui continue à brailler en rentrant chez lui. Même la grosse Morissette est là. Je sais pas comment elle a fait pour sortir de chez elle, celle-là, tiens. Oh là là, mais c'est un de ces bordels là! Les chiens vont bientôt rejoindre la corde des chats et former l'union sacrée tant rêvée pour aller attaquer le vétérinaire. C'est vraiment nawak ce coup-ci. Et c'est là que The Mou, motivé par l'arrivée des chiens, abat sa dernière carte. Arrêtez, mes amis, arrêtez! Bien sûr, nous rêvons tous d'aller punir ce vétérinaire Oni, mais nous prenons quand même un énorme risque de ne plus pouvoir nous soigner si nous tombons malades. Je vous en conjure, il vaut mieux traiter le mal à la racine et se débarrasser de la cause plutôt que du symptôme. Attaquons les persans et éradiquons le mal!
Ce coup-ci, c'est Napoléon, mais sur le pont d'Arcole, genre, ou enfin, je sais plus où. Enfin, il se la pète grave.
Eh, mais t'as vraiment rien compris, toi!
Lui réplique un grognard dissident.
Si on touche au persan, on va choper le virus, et après on sera obligé de se faire vacciner pour pas bouffer des légumes et on va se mettre à aboyer. Même pas en rêve, mon gars. Hein.
Et là, The Mou, avec un grand sourire. Mais qui te parle de toucher les persans? Regarde tous ces chiens qui arrivent. Ils sont pas sensibles au virus, eux. Le virus ne concerne que les chats. On n'a qu'à faire un deal avec les clébards. Ce sont eux qui vont mettre une pâtée aux persans. En échange de quoi, on leur fournira moult nourriture pendant quelques semaines. Crois-moi, ils vont pas refuser. The Mou, vainqueur par KO. En une seconde, toute la troupe retourne sa veste et la clame. Francis a perdu la partie définitivement. Chats et chiens se dirigent d'un seul pas vers le quartier des pauvres persans qui ne savent pas ce qui les attend. Je suis effaré. Ça va être un carnage.
T'inquiète, j'ai un plan, me dit Simone.
Ouais. Alors je demande à voir, Simone. Et, au fait, à propos de Napoléon, tu sais comment on appelle un chat qui scintille à l'aube ?
Je vois pas trop le rapport avec Napoléon, Chipette. Et puis c'est peut-être pas le moment, là, si ?
Oh, bah tu sais, au point où on en est...
Un chat qui scintille à l'aube ?
Ben, c'est un château brillant.
Bon, désolé, c'est la guerre. Pas eu le temps de trouver mieux.
Chipette ? Chipette ? Petit ou minou ? Viens, viens.
Thank you.